en ce vendredi 1er février, que je vous souhaite excellent, bien évidemment. Il est midi, le journal de midi présenté par Alice Cachaner. Bonjour Alice.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
L'actualité ce midi en Île-de-France, c'est donc la fermeture en urgence du collège Simone Veil à Mandres-les-Roses. On est dans le Val-de-Marne.
Oui, 455 élèves n'ont plus de collège depuis ce matin et pour cause. Leur établissement menace de s'effondrer. Explication à suivre dans ce journal. Connaissez-vous le métier d'aiguilleur? La SNCF en recrute 400 en Île-de-France. On vous fait découvrir ce métier dans ce journal. Un peu de fiction pour finir avec une rencontre du troisième type. Les robots arrivent dans les maisons de retraite.
Alors donc, 455 élèves sans collège depuis ce matin.
Le département du Val-de-Marne a décidé de fermer le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses car il menace de s'effondrer. Pourtant, le bâtiment n'est pas très vieux, il a été livré en 2006. Valentin Dunat, cela fait déjà plusieurs années que des défaillances ont été constatées.
En effet, selon le président du département, ce collège aurait montré des défaillances dès la fin de l'année 2014, soit 8 ans seulement après sa construction. Là, depuis la mi-décembre, les emplois du temps des élèves avaient déjà été modifiés à cause d'un escalier fissuré. Le département a donc mandaté un bureau d'études indépendant et les résultats sont sans appel. Au vu de l'évolution très récente de la situation, dit le département, la stabilité de l'ouvrage peut être mise en péril. Les parents d'élèves sont évidemment très surpris par cette décision qui a été prise hier soir. L'une d'entre elles m'expliquait être sous le choc et ne pas du tout savoir comment ça va se passer lundi matin pour ces 455 collégiens. Alors en ce moment, à l'Éducation nationale et au département, on s'active pour essayer de trouver une solution et pour accueillir ces élèves dans les collèges du Val-de-Marne les plus proches.
Précision à retrouver sur le site francebleuparis.fr. À la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, le Conseil d'État rejette la demande d'interdiction des LBD, les lanceurs de balles de défense. Une arme de plus en plus polémique qui aurait fait 20 blessés graves depuis le début du mouvement, selon un collectif de militants.
4 millions de Français mal logés ou sans logement.
La Fondation Abbé Pierre dévoile aujourd'hui son rapport annuel. L'autre chiffre inquiétant, 12 millions auraient des difficultés avec leur logement. Ça veut dire des loyers trop chers par rapport au salaire perçu ou encore des difficultés de chauffage.
Le nombre de plaintes pour viol et agression sexuelle en forte hausse en 2018.
Les chiffres sont impressionnants. Plus 17% pour les viols et un bond de 20% pour les agressions sexuelles. Mais attention, ces chiffres ne veulent pas forcément dire qu'il y a eu plus de violence. C'est surtout que depuis le hashtag MeToo, la parole s'est libérée. Caroline Dehas, du mouvement féministe Nous Toutes.
L'augmentation du nombre de plaintes pour violences sexuelles, c'est le signe que la société est en train de bouger de manière extrêmement rapide. C'est pas forcément le signe qu'il y a eu plus de violences sexuelles en 2018 que les années précédentes. Mais c'est le signe que les femmes vont beaucoup plus qu'avant porter plainte et sans doute que leurs plaintes sont prises plus au sérieux. Les mobilisations sur les violences, elles ont été continues en fait depuis des dizaines d'années et MeToo a la particularité d'avoir été un accélérateur mondial en matière de prise de conscience contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu un avant et il y aura un après MeToo.
Caroline Dehas du mouvement féministe, Nous Toutes.
Des nouvelles de la SNCF et aujourd'hui, ben, elles sont plutôt bonnes.
Ce midi, on vous parle des trains qui partent à l'heure. Après la journée de galère, notamment à la gare Montparnasse hier, la SNCF annonce un retour à la normale aujourd'hui sur le réseau. Et autre annonce positive, la SNCF recrute. 400 postes d'aiguilleurs sont à pourvoir en Île-de-France. C'est un métier essentiel pour faire rouler les trains, mais souvent peu connu du grand public. Émilie Defay nous fait visiter le poste d'aiguillage de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine.
Oui, c'est l'un des derniers postes manuels d'Île-de-France. Ici, il y a encore des leviers pour actionner les aiguillages. La manœuvre requiert un peu de force, pas de quoi toutefois effrayer Charlotte, aiguilleuse depuis quelques mois. Après plusieurs années à vendre des billets à la SNCF, elle a voulu changer de métier.
Ça faisait un moment que ça m'intéressait. Je trouve que faire circuler les trains, ça permet vraiment de comprendre derrière tout le système comment il fonctionne. On a plus l'image de tout ce qui représente la SNCF, les conducteurs de train, les contrôleurs ou les commerciaux en gare. Nous, on ne nous voit jamais en fait. On ne sait pas qu'on existe vraiment quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi, les gens ne s'intéressent pas à ce métier-là.
Le métier d'aiguilleur connaît aujourd'hui une vraie pénurie en Île-de-France. Il faut reconnaître qu'il y a quelques contraintes, explique Jonathan Martineau, le responsable du poste d'aiguillage.
Comme nos postes sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est assez contraignant. Malgré tout, ça a ses avantages. Après, on a très fort taux d'échec parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la charge de travail que c'est. Il y a un énorme volume de réglementation à apprendre. Et puis derrière, il faut être énormément rigoureux. La moindre erreur, ça peut être problématique derrière. Donc sans cette rigueur, on peut vite ne pas correspondre à ces métiers-là.
La SNCF recrute niveau bac à 1 300 € net par mois, les candidats étant payés dès le début de la formation.
Et un forum de recrutement a lieu aujourd'hui et demain dans le 8e arrondissement à Paris. Tous les détails sont à retrouver sur francebleu-paris.fr. La grippe gagne du terrain en Île-de-France. De plus en plus de cas sont recensés. Quelques conseils pratiques alors de l'Agence régionale de santé pour vous prémunir. Se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Ou bien encore éternuer dans son coude plutôt que dans ses mains.
Je vous l'avais dit ça. Hein. un résident pas comme les autres dans des maisons de retraite.
Il s'appelle Zora. Zora est un robot qui ressemble à un humain. Des maisons de retraite plutôt luxueuses s'équipent de ses salariés d'un autre type. Romain Sost en a rencontré un dans l'EHPAD du 15e arrondissement de la capitale. À quoi ça sert un robot avec des personnes âgées ?
Eh bien, l'objectif principal affiché, c'est de donner un coup de main pendant la gym. Zora est un robot haut comme un nain de jardin qui parle.
Tu veux bien prendre mon bâton, François ?
Une tête en forme d'olive, des jambes, des bras et même des doigts. La parole au résident.
J'ai trouvé Zora super parce que moi qui aurais de la gymnastique, avec Zora ça m'amuse beaucoup.
C'est pas de ma période, hein. C'est plus à mon âge. Les robots, c'était pas habituel.
En tout cas, c'est bien pour l'exercice que ce robot est vanté. Justin prodigue des activités physiques adaptées dans l'EHPAD.
Le robot, il n'est pas capable d'expliquer, mais il va effectuer les gestes. Donc moi, ça va me libérer, on va dire, du temps. Je vais pouvoir me déplacer un petit peu plus. Je vais pouvoir aller corriger manuellement les gestes des résidents, ce que je ne peux pas faire si je suis dans la démonstration.
Mais alors, pourquoi ajouter un robot dans cette maison de retraite du 15e arrondissement, surtout quand il y a 44 résidents pour 45 membres du personnel? Delphine Magui, la directrice générale du groupe en France.
Je pense que c'est un investissement qui va vraiment apporter de la différenciation et apporter encore plus à nos résidents.
Un investissement d'une valeur de 240 000 euros, car chaque robot coûte 15 000 euros l'unité. Un pari qui pourrait bien rapporter plus de retraités à cette entreprise.
Et les images de ce robot bientôt à retrouver sur notre site francebleu-paris.fr. J'ai l'impression que vous avez hâte, Laurent.
Oui, d'être en maison de retraite. Non.
Allez, Paris qui rend un dernier hommage aujourd'hui à Michel Legrand jusqu'à 19h sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Un grand écran projette une rétrospective du musicien. On lui doit notamment la bande originale de Peau d'âne, des Parapluies de Cherbourg. Michel Legrand sera enterré à 16h30 au cimetière du Père Lachaise où le public est convié. Et puis on termine avec le foot ce soir et la 23e journée de Ligue 2. Le Red Star, dernier du classement, joue à Auxerre et le Paris FC reçoit Orléans à Charletti. Coup d'envoi à 20h. On passe